Choisir un cloud provider, c'est un peu comme choisir une nouvelle voiture. On sait que cette décision va nous engager sur le long terme et nous ne voudrions pas laisser ça au hasard. C'est pourquoi nous nous intéressons aux bancs d'essai, aux comparaisons entre les marques, à la performance de chaque véhicule. Anthony Monté est le fondateur de Cloud Mercato, une plateforme de benchmark pour le cloud. Anthony aime profondément le cloud et il est pour son adoption à large échelle. Mais pour que les entreprises aillent vers le cloud, il sait qu'elles ont besoin de transparence et de voir plus loin que de simples discours marketing. Fournir aux consommateurs de la donnée sur les cloud providers est justement la mission de Cloud Mercato. Salut Anthony, bienvenue.
Salut Stéphane.
Alors aujourd'hui, on est là pour parler d'une étude, entre autres, que tu as fait et qui avait attiré mon attention sur les hyperscalers. Alors déjà, première question, c'est quoi un hyperscaler ?
Je pense qu'il y a plein de définitions d'hyperscaler. Moi, la définition que je donnerais à ça, c'est un cloud provider qui propose toute une panoplie de services et qui permet surtout aux clients de pouvoir échelonner en français leur SI, leur architecture, à une grande échelle. Là où un small and medium provider, il va vous proposer des VM, de l'IaaS, peut-être du PaaS, du SaaS, etc., mais pas à la même échelle. Si je réfléchis en termes de 10 000 VM, par exemple, je serais forcé d'aller vers un hyperscaler, donc l'un des 5 ou des 6, ça dépend du nombre d'hyperscalers que vous voyez.
Ok. Pourquoi alors faire ces études ?
En fait, c'est typiquement le rôle de Cloud Mercato. On est un cabinet de recherche et de consulting spécialisé dans l'analyse du marché du cloud. Notre idée, c'est qu'il y a plein de fournisseurs, il y a plein de produits, plein de services, il y a du PaaS, du IaaS, du SaaS, du CaaS, enfin, tout ce qu'on peut imaginer en as a service aujourd'hui. Et en fait, beaucoup de gens se fixent seulement sur les leaders de marché, AWS, Azure, Google aujourd'hui et peut-être d'autres. Mais les gens se fixent sur les leaders, alors que nous, dans notre idée, Cloud Mercato, on veut donner des datas qui sont vraiment représentatives des produits, c'est-à-dire de la performance, du prix, des certifications, des locations et plus encore. Et pas juste se fixer sur les bénéfices nets ou les parts de marché annuelles, enfin ce genre de choses. Vraiment des choses qui concernent le consommateur et pas Forbes ou simplement les hyperscalers entre eux, quoi.
Donc tu fais des études, celles-ci portées sur des hyperscalers, mais tu fais des études plus générales sur d'autres composants, je ne sais pas, par exemple, le serverless.
Ouais, tout à fait, on n'est pas du tout fixé sur les hyperscalers. Comme je disais, notre idée, c'est détourner aussi les consommateurs de ce mode hyperscaler, leader de marché. Et on pourrait faire sur d'autres types Scaleway, 3DS, OVH pour parler des Français, mais on pourrait faire avec UpCloud pour parler finlandais ou encore d'autres small and medium cloud providers. L'idée, c'est vraiment de faire la promotion de tous les clouds sans discrimination et vraiment de montrer aux utilisateurs quels sont les avantages qu'ils peuvent trouver pour un cloud ou pour un autre. L'étude qu'on a fait il n'y a pas longtemps, en fait, elle était vraiment sur les hyperscalers, les 5 gros, AWS, Azure, Google, IBM et Oracle. Et on a fait cette étude-là sur les 5 hyperscalers américains aux US. Mais l'étude publique qu'on avait faite avant, elle était par exemple sur l'object storage en Europe. Ici, on a pris un panel d'object storage qui est assez complet et sans aucune discrimination au niveau de taille, etc. Donc, les sujets en fait qu'on peut traiter, ils sont aussi différents, aussi variables que le cloud peut l'être en réalité.
Si je prends par exemple une étude sur de l'object storage, alors comment ça va se passer de faire cette étude-là, sur quoi porte en fait ton étude, comment tu vas la réaliser ?
Simplement, on va trouver un sujet de base. Ici, le sujet, c'était Object Storage Europe. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder les différents cloud providers, qu'ils soient européens, chinois, anglais, ou peu importe, qui sont présents avec des data centers en Europe et qui proposent un service d'Object Storage en Europe. On les inclut dans un panel, on va chercher leur solution standard. Et puis ensuite, on les benchmark selon différents aspects de leur performance. Pour ce qui est d'un object storage, il y a principalement trois aspects sur les performances, upload, download, et on peut aussi rajouter request par seconde suivant les configurations qu'on donne. Et il y a un dernier paramètre qui est bien sûr le prix. Et donc, on fait une compilation des performances qu'on peut capturer, une compilation des prix, et on propose ça aux utilisateurs pour leur donner un aspect, leur donner un benchmark qui pourrait leur donner une vision, entre guillemets, pas globale, mais une vision qui leur permettrait d'avoir un avis sur les différents fournisseurs de cloud. On n'a pas forcément la même démarche vers le cloud quand on veut faire du backup, quand on veut faire un site web HTTP ou qu'on veut faire de l'archivage. Et avec ce genre d'études, le consommateur il peut se doter d'un avis, se forger un avis et voir vers quel fournisseur il y est. Surtout aujourd'hui qu'on entend tout le temps parler de multi-cloud, any cloud et however cloud, j'ai envie de dire.
En effet. Alors, autant je me représente facilement une étude sur de l'object storage parce que finalement, c'est assez simple. On va prendre différentes buckets chez différents providers et tester les performances. Par contre, quand on commence à comparer des cloud providers, on sait bien que les cloud providers ont différents services. Et là, les mettre en perspective les uns par rapport aux autres et arriver à sortir une étude, justement, ça me paraît plus complexe. Alors, comment tu t'y prends quand il s'agit de comparer des cloud providers ?
On n'essaye pas forcément de comparer un cloud to cloud. Souvent, les consommateurs veulent des comparaisons dites Apple to Apple, et ce genre de comparaison est faite avec des produits. Typiquement, je prends une VM, je vais tester ses performances, je prends une autre VM qui n'est pas forcément équivalente, et je teste ses performances aussi, et ensuite, avec le prix, j'arriverai à me faire une comparaison Apple to Apple, bien que cette comparaison ne soit pas forcément ultra précise. Dans l'idée, Cloud Mercato, nous, on essaie de donner beaucoup de data aux gens. Peut-être 95% de nos data sont accessibles via le web, sont gratuites. Et toutes ces data qu'on donne, en fait, elles sont gratuites parce que ce qu'on considère vendre, c'est notre expertise. Donc, quand je vous fais une comparaison disant une VM X contre une VM Y, peut-être que quand on regarde dans les contrats, peut-être que quand on connaît très bien les produits, on sait où est-ce qu'elles ne sont pas comparables. Et c'est ça que Cloud Mercato vend. Maintenant, faire une comparaison de cloud à cloud, pour moi, c'est des choses qui sont un peu trop de haut niveau et je préfère faire un petit zoom et me dire, tiens, je vais comparer tel produit à tel produit. Tout simplement parce qu'un cloud, c'est souvent une philosophie. Et souvent, les startups vont chez AWS ou Azure parce que ces gros providers, ils vont leur donner 100 000 euros par année. Mais en fait, il y a d'autres choses qui sont à prendre en compte. Au-delà des datas que nous, on récolte chez Cloud Mercato, il y a aussi une affinité que les gens développent eux-mêmes avec un cloud provider. Est-ce que j'ai envie de faire du PaaS parce que moi j'ai que des développeurs sous la main et j'ai envie de leur donner une plateforme qu'ils utilisent? Est-ce que je suis un vieux sysadmin comme moi qui a envie de mettre son application dans la machine qu'il est en train de gérer et qui sait qu'il va mettre à jour lui-même, etc. Ça dépend de l'usage qu'on a envie d'avoir. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est donner des datas. Mais en aucun cas, on peut essayer de deviner la masse aujourd'hui, elle est plus SaaS que PaaS, que IaaS, que CaaS. Non, on veut à peu près tout benchmarker. Et à partir de ces datas, l'utilisateur saura que s'il a envie d'un IaaS, il y a toutes ces options-là qui s'offrent à lui, etc., etc.
Donc, si je comprends bien, ça porte plus sur le benchmark et les performances que sur les fonctionnalités qu'offrent les cloud providers.
Non, parce qu'en fait, déjà les fonctionnalités, j'ai envie de dire, elles sont benchmarkables aussi. Mais en fait, au-delà des performances, on collecte les perfs, on collecte les prix, on collecte aussi les certifications, on collecte les locations des différents data centers. Donc en fait, tout ce qui peut être de la data pour nous va servir. Tout ce qui permet de qualifier un cloud, un produit, un data center, pour nous, c'est de la data et on l'enregistre quelque part dans notre base de données. Et comme je disais tout à l'heure, si je propose un cloud X et que je dis ce cloud X il a un IaaS, et que je propose un cloud Y et que je dis que ce cloud Y a un IaaS et un PaaS et qui est le produit X, bien que j'ai pas fait un benchmark en tant que tel de performance, en fait c'est de la data aussi. Et quand Cloud Mercato on dit benchmark, en fait moi qui suis Techos, tout le monde entend directement un benchmark de performance, mais en réalité, le benchmark, c'est surtout de l'information qu'on va chercher sur le marché et qu'on délivre. Donc c'est un benchmark en tant que information, en tant que intelligency en anglais, mais pas vraiment, pas forcément sur les performances, quoi. On n'est pas là à faire un banc d'essai forcément de performance, bien que ce soit une grosse partie de notre travail, mais surtout un banc d'essai des providers et de savoir qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, et qu'est-ce qu'on peut tirer des data publics et qu'est-ce qu'on peut tirer ensuite comme conclusion à partir des data qu'on aura récoltées, quoi.
J'aimerais revenir un instant sur une chose que tu as dite, c'est que tu compares des VM qui ne sont pas forcément équivalentes. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ?
Oui, parce que, sortons de la virtualisation, prenons un bar métal. Dans la réalité, il n'y a pas deux bar métal qui sont pareils. Il y en a des cartes mères différentes, on a des disques durs ou SSD différents, on a des CPU différents. Et même si je suis un provider X et que je vois un provider Y qui me sort un nouveau CPU, si je veux avoir exactement le même CPU, je suis même pas sûr de l'avoir. Peut-être que j'aurai la génération d'après, d'avant, une petite lettre, un petit CPU flag en plus, ou peu importe. Oui, si on rajoute la virtualisation, après on a la version du kernel Linux, on a le KVM, on a le QEMU, on a plein de détails qui font qu'en fait les VM ne sont pas identiques. Si on veut rester sur de l'incomparabilité de haut niveau, on va dire déjà CPU shared ou pas. C'est-à-dire, est-ce que le cloud partage les CPU qu'il vend à ses clients. Déjà, cette donnée-là, on ne l'a pas forcément chez tous les cloud providers. Ils ne vont pas nous le dire. Moi, Cloud Mercato, je m'amuse à collecter des datas qui me permettent de deviner cette caractéristique, mais tous les cloud providers ne me disent pas si je suis en train de partager mon CPU avec mon voisin. Pareillement, souvent, les clouds veulent se comparer, ils vont dire « Bon, ben, cette machine a deux CPU, celle-là, on en a deux aussi. » Mais en réalité, est-ce que cette machine virtuelle pour avoir deux vCPU, est-ce qu'elle utilise deux cores? Est-ce qu'elle utilise deux sockets? Est-ce qu'elle utilise deux threads? Ça, si je suis pas le cloud provider, si j'ai pas réglé l'hyperviseur moi-même, en réalité, je peux pas vraiment le savoir parce que c'est de la virtualisation. Et donc, l'idée de Cloud Mercato, c'est que, ok, peut-être les produits sont différents, peut-être ils sont pas similaires, etc. Mais nous, on va faire des résultats de benchmark, on va faire des résultats de performance. Et si ce DCPU, il a 2000 points et que ce 3CPU, il en a 2000, bah moi je serais le score de performance. Maintenant, de savoir s'ils sont exactement pareils, oui, ça peut être utile, mais en réalité, un utilisateur final, il se pose pas forcément ces questions, il se pose les questions du prix, du PR, du ratio entre les deux, mais les spécifications, si on n'est pas technique, on se pose pas du tout la question du nombre de CPU et de RAM si on n'est pas technique. On veut juste savoir quel sera le meilleur, quel est le meilleur endroit pour dépenser ses sous, quoi.
Faire un benchmark déjà d'un composant, d'une VM par exemple le CPU, c'est déjà un sacré boulot et il faut être outillé pour le faire. Faire le benchmark des I/O, de la RAM, des CPU, etc. et évaluer la performance globale de la VM, c'est déjà énormément. Et quand tu arrives à évaluer plusieurs produits chez un cloud provider, ça devient colossal. Alors, dis-moi un peu comment, chez Cloud Mercato, tu arrives à gérer justement ce benchmarking.
Yep. Bah en fait, on a une super plateforme qu'on a commencé à développer il y a maintenant 4-5 ans dans une autre entreprise. Et aujourd'hui, en fait, cette plateforme, elle nous permet de faire à peu près tout, on va dire. Dans le sens où cette plateforme, c'est d'abord notre repository, notre database. C'est là qu'on rassemble toutes nos datas de catalogue, nos datas de data center, nos datas de prix, de résultats de performance, etc. Et aussi, cette plateforme nous permet de gérer les différents clouds. Si demain, j'ai envie de booter une VM AWS Ninja, je fais 4-5 clics sur ma plateforme. Si demain, j'ai envie de créer un bucket Azure au Canada, idem. Si demain, je veux créer une DB managée, pareil. Ma plateforme est capable de recréer ou de créer les composants assez rapidement. Donc, si je fais un benchmark aujourd'hui et que je reviens l'année prochaine et que j'ai envie de lancer exactement le même, en réalité, en 2-3 clics, je peux relancer un benchmark que j'ai déjà fait. Et ça nous permet d'aller très vite. Et en plus de ça, la plateforme, on a codé nos méthodologies dedans. Pour donner un petit peu de détails, on utilise Ansible. Et toutes nos méthodologies ont des playbooks. Donc, si demain, je veux lancer un Geekbench, un Sysbench avec 2 CPU, 8 threads ou peu importe, bah j'ai déjà les playbooks pour lancer ces actions-là. Donc, notre plateforme, elle nous permet de faire notre travail de A à Z, de collecte de data, jusqu'à l'affichage de la data, puisque toutes les applications qu'on propose pour afficher les data, font partie de notre plateforme et c'est des requêtes qui sont directement lancées dans notre base de données pour être affichées dans des graphiques ou dans des tableaux, etc. Donc tout est automatisé et bah, en fait, il suffit qu'on ait l'idée de se dire, en l'occurrence, par exemple, pour l'étude des hyperscalers, ah bah tiens, j'ai envie de comparer ces 5 cloud providers, bah c'est parti, on le fait, et en réalité, l'étude des hyperscalers, j'ai dû prendre quelque chose comme un jour à tout casser à la faire. Le plus long, généralement, c'est les quotas, en fait. Je demande une VM à Google et ils me disent, ah, mais tu n'as pas les quotas, faut que tu demandes.
Alors, quand tu réalises justement un benchmark, et comme tu l'as dit, on est sur du cloud public la plupart du temps, et notamment, si je reprends l'exemple de la VM, tu dis que c'est pas sûr, évidemment, que tu sois le seul à utiliser le CPU. Ce qui veut dire que quand tu vas faire un benchmark, la VM sur laquelle tu vas faire tourner ton outil de benchmark, finalement, va refléter la façon dont la VM va performer à ce moment-là. Comment tu t'assures d'avoir quelque chose qui soit véridique ? Est-ce que tu rejoues plusieurs fois le même benchmark sur un cloud provider pour valider ? Comment ça se passe, cette partie ?
En fait, pour tous les benchmarks qu'on fait, déjà, au minimum, on a 2 à 3 VM identiques qui sont lancées. Comme ça, disons que je lance tel ou tel benchmark chez IBM, ma première VM, peut-être, elle aura un CPU Broadwell, la deuxième aura peut-être un Skylake. Et dans l'idée, moi, je ferai une moyenne des deux sur un instant T. Après, il y a aussi la question du temps. On peut s'amuser à benchmarker pendant 24 heures, une VM ou 48 ou une semaine. Je trouve pas que c'est très pertinent parce que on va avoir des écarts de perf, etc. Et je préfère tout simplement lancer un nombre suffisant de tests et à la fin de jouer sur la moyenne et l'écart type. Donc si on connaît un petit peu les mathématiques, quand on prend moyenne plus ou moins écart type, on sait qu'on a 66% des datas. Et c'est un peu sur ça qu'on se base, mais c'est assez compliqué. Ouais. On essaie de se donner une certaine... qu'on essaye d'avoir des résultats assez stables, assez... l'adjectif exact. Mais quoi qu'il arrive, on boot plein de VM, on essaye de lancer un petit peu dans le temps, mais pas non plus pendant une journée. Et on utilise surtout les maths pour essayer de donner des résultats clairs avec moyenne et standard average. Et standard déviation.
À l'arrivée, j'imagine que tu as énormément de données sur l'objet de ta comparaison. Après, arriver à faire une classification, alors comment ça marche ? Est-ce que tu as un barème ?
On essaye de pas faire ce que j'ai vu plein de fois, des cloud scores. Parce qu'en fait, un cloud score, pour moi, ça part du principe qu'il faudrait que je connaisse le max de ce qui est possible. Et je pense pas l'avoir vu. J'ai des données Mac, je sais par exemple que Azure a des CPU qui poussent fortement, IBM a du Power 9, mais si j'ai envie de faire des bons calculs mathématiques avec un référentiel, il faut que je connaisse le Max ou que je prenne une machine de référence, ce que je n'ai pas envie de faire. Ce que je fais, c'est que moi d'abord je me base sur les performances brutes. Je suis un techos, donc perso ça me va, mais on utilise des logiciels, par exemple, comme Geekbench, qui permettent de fournir un score, qui, eux, ont leurs références, etc. Et ça peut être utile pour nos consommateurs d'avoir ça et d'avoir un score de référence, plutôt qu'un IOPS, un bandwidth par seconde ou je sais pas quoi. Là, il y a un score et c'est utile, mais je suis pas trop fan de test suite, de longues test suite et de trucs qui va lancer plein de tests et donner un score à la fin. Moi, je suis un techo, je veux des trucs concrets, en fait. Comparer le comparable, oui, je compare une bandwidth de RAM, je compare une puissance de CPU, je compare un réseau. Faire un agrégat de tout ça, c'est une autre histoire. C'est des choses qu'on peut faire, qu'on a fait pour des clients. Mais pour moi, qui suis pas un doctorant en mathématiques, je sais pas si vraiment ça a une valeur de vouloir faire un agrégat de toutes les performances et du prix et des specs et de retourner une seule valeur à partir de tout ça. Je sais pas si vraiment, en tout cas, je sais pas si j'ai la formule mathématique pour le faire.
Mais alors, quand tu vas comparer justement, est-ce que tu vas donner des données brutes en sortie pour ton étude? C'est-à-dire que tu mesures la bande passante pour accéder à la VM de Google par rapport à celle d'Amazon. Et ce sera peut-être pas parlant pour un consommateur. qui lui cherche peut-être plus une comparaison entre les deux. Alors évidemment, il peut évaluer les deux valeurs, mais je ne suis pas sûr qu'elles aient forcément de la signification. Brut.
Oui, brut, clairement, pour un consommateur final, ça n'a pas beaucoup de signification. Par contre, ce qui a une signification pour le consommateur final, c'est d'abord le prix, qui est une donnée qu'on récupère. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, on fait des comparaisons Apple to Apple. Donc, il suffit de prendre une performance, de la diviser par le prix, ou inversement, diviser le prix par la performance. Et on peut avoir une comparaison Apple to Apple qui nous dira, ah bah pour ce prix-là, il vaut mieux aller à tel endroit ou à tel endroit. Et ça, c'est la vision finale qui intéresse le consommateur. Mais encore une fois, ça dépend aussi de l'affinité qu'on veut donner et la raison pour laquelle on veut aller dans le cloud. Est-ce qu'on veut aller dans le cloud parce que on a vu que Google avait des super perfs, ou est-ce qu'on veut aller dans le cloud parce qu'on a vu que AWS était hyper scalable? Ça dépend de ce qu'on recherche, en fait. Et nous, Cloud Mercato, on essaye aussi de délivrer ce que je recherche nos consommateurs, de consommateurs qui sont pas forcément les consommateurs de cloud. Ça peut être les cloud providers eux-mêmes, puisqu'on fait des recherches pour tout le monde. Et quand je parle à un service marketing, par exemple, j'aurais une tendance à leur donner un price per value. Quand je parle à un service R&D ou un service tech d'un cloud provider, bah, je vais leur donner des résultats bruts. Ils veulent de l'IOPS, ils veulent savoir quelle est la bande passante en mégabits par seconde, etc. Ça dépend vraiment de l'audience, en fait, qui s'intéresse aux data. Et nous, on a la flexibilité de pouvoir produire ce qui intéresse, que ce soit au niveau, que ce soit en graphique, que ce soit en tableau, ou même de créer des superbes tableaux croisés dynamiques. Il n'y a pas de problème. Ça dépend de l'audience, en fait.
D'accord. Tu fais pas comme Gartner, un Magic Quadrant?
Magic Quadrant, c'est bien, mais qu'est-ce que j'aurais à exprimer avec, en fait? C'est aussi ça la question, parce que c'est une bonne partie de mon travail. En fait, j'ai beaucoup de data, on a des millions et des millions de data points. Le défi, c'est que faire avec, comment les afficher, et quand on a un superbe graphique, faut qu'il soit parlant. Moi, c'est souvent que je fais des super graphiques, ils sont trop bien, trop beaux, ils expriment tellement de choses en un seul coup d'œil, et que je le montre à quelqu'un, et il me dit « mais ça veut rien dire, je comprends pas, t'as pas mis de légende là, mais si, la légende, enfin, voilà. » Et il y a tout ça que, en fait, un graphique, c'est compliqué, et un Magic Quadrant de Gartner, en fait, ça retourne sur la notion dont je parlais tout à l'heure, qui est « est-ce qu'on veut comparer un cloud à un cloud ? Est-ce que j'ai envie de comparer Azure à OVH, etc. etc. ?» Nous, on est plus bas, on est sur les produits. Donc un Magic Quadrant, c'est pas forcément adapté. J'ai envie de dire, je peux vous délivrer des Magic Spider Graph si vous voulez, mais le quadrant en tant que tel, c'est pas très adapté à ce qu'on fait nous.
Quand tu parles de comparer des pommes avec des pommes, je me pose quand même cette question, c'est que demain je demande à Cloud Mercato de me faire une étude sur qui a le meilleur fonction de service, et que, comme tu le dis, t'as beaucoup de data points sur ça. Donc, il va y avoir différentes choses que tu vas mesurer, peut-être le cold start, peut-être la performance, peut-être la sécurité. Et justement, comment tu vas pondérer tout ça pour finalement me fournir une étude où tu pourras me dire celui-ci est meilleur que celui-là. Ou en tout cas, peut-être pas meilleur, parce que ce serait donner un jugement de valeur, mais en tout cas, plus performant.
Oui. Bah, pour ce qui est de la performance, clairement, un lambda, enfin, je réduis la chose à lambda, mais on va dire function et serverless. Clairement, c'est du compute. Donc, moi, dans mon cerveau, c'est pas compliqué à benchmarker de me dire quelle est la performance que je peux avoir avec. C'est simplement une perte de CPU. Le truc qui est assez marrant avec le function as a service, c'est qu'ils veulent nous mettre des facturations à la microseconde, à la nanoseconde, etc. Et, en fait, si on faisait le ratio avec des VM, peut-être pas partout, mais si on devait faire le prix-performance ratio avec des VM et avec le functional service, je pense que les VM seront beaucoup mieux en termes d'efficacité. Et d'ailleurs, si on devait continuer ce parallèle-là et qu'on devait aller chercher nos barres métal des années 2010 et 2000, je pense qu'ils auraient encore un meilleur ratio. Mais c'est une autre histoire. Et donc, je prends mes lambda, je prends mes serverless, je peux faire une comparaison Apple to Apple avec le prix et la perf. Pour moi, le ratio des deux directement va me répondre à cette question. Ensuite, chez Cloud Mercato, on a envie d'évoluer vers une autre chose, qui est se poser la question de l'affinité des utilisateurs. Pour ce qui est d'un serverless, tu m'as parlé tout à l'heure de sécurité. Et par exemple, ce qu'on veut faire, qu'on n'a pas encore fait, c'est de dire, OK, nous, on vous a donné le prix, la perf, le ratio prix-perf. Et on vous dit que par rapport ce provider X par rapport au provider Y a mis un certain enclin sur la sécurité. Ils sont en sécurité plus plus. Cependant, Cloud Mercato, nous, on ne sait pas quelle est la note que vous vous donnez à la sécurité. Donc en fait, ce qu'on prévoit de faire, c'est de dire, bah, y a le prix perf. On vous donne un petit curseur comme ça et vous ajustez l'affinité que vous donnez à la sécurité ou à la rapidité ou à la souveraineté ou peu importe l'aspect qu'on vous a remonté. Et en fonction de la note que vous aurez donnée à ces aspects-là, bah, le prix perf va diminuer ou augmenter. Et on veut aller vers ça parce qu'on sait très bien que nous, on donne des datas simples, neutres, objectives et que toujours, il y a des petits trucs derrière qui disent « Oui, mais attends, mais moi, je suis plutôt comme ça que comme ça et moi, je suis plutôt comme ça que comme ça. » Et en fait, on peut pas dealer avec l'affinité de tous les utilisateurs de la planète. Et on veut quand même être automatique. Donc, on va aller vers cette manière de voir les choses.
Du coup, c'est quand même des données qui sont très liées à la performance donc, et au prix, si je comprends bien.
Ouais.
Mais en tant que consommateur de cloud, par exemple, moi, je vais avoir un use case bien spécifique qui est le mien. Enfin, en attendant, je le partage aussi sûrement avec d'autres personnes. Admettons que mon use case, ce soit de faire tourner un WordPress. Et en fait, ce WordPress, peut-être, les choses que je vais vouloir savoir sur lui, c'est comment il est résilient. Peut-être pas pris le bon exemple avec WordPress, mais c'est pas grave. Comment il pourrait scaler la base de données, l'écriture, etc. Donc, il y a des choses où, je veux dire, là, je sais que dans l'année, j'ai toujours une période où je vais avoir beaucoup de monde. Donc, j'ai besoin de scaler, etc. Je veux dire, le use case, est-ce que tu le testes? Est-ce que tu as que de la donnée brute? Ou alors, tu vas dire, tel cloud provider, par exemple, serait bien placé pour faire tourner tel type de workload?
Le test d'application en tant que tel, c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on a déjà fait. Et qu'on fait que si on nous demande, parce que y a tellement d'applications et de manières d'installer une application qu'on peut pas se permettre de tout installer et de tout faire. L'idée de Cloud Mercato, c'est d'abord de donner des résultats de perf d'infrastructure et de prix, bien sûr, d'infrastructure. Comme ça, disons par exemple, je teste tel SSD et je serai capable de dire au consommateur, ok, tel SSD, il est capable de remplir 50 milliops. C'est 50 milliops, peut-être qu'un autre jour, je ferai un test de benchmark MySQL sur ce même SSD, et je serai capable de dire, ces 50 milliops, on les a traduits en, je sais pas, 5000 requêtes par seconde, et ça donnera ça. Après, si l'utilisateur veut scaler son WordPress, faire du achat sur son MySQL, ou du achat sur son Nginx, ou peu importe la manière dont il fait les choses, on peut partir dans ce benchmark-là, mais c'est pas quelque chose qu'on fait généralement pour les consommateurs, c'est quelque chose qu'on fait pour en tant que service de consulting pour les cloud providers. Et de notre point de vue, c'est devinable à partir des résultats de performance d'infrastructure.
Il y a une question que je me pose liée à ça, c'est que tu veux comparer, comme tu l'as dit donc, des pommes avec des pommes, et quand tu vas comparer deux cloud providers, mettons, sur leur performance de VM, tu vas les comparer sur des VM que tu aurais estimé à peu près identiques.
Oui.
Ce qu'il y a, c'est que cette VM reflète pas non plus l'ensemble des VM que peut avoir le cloud provider. Et je doute qu'un consommateur veuille aller chez un cloud provider pour un seul type de VM. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir, par exemple, tu vas tester une VM small, une VM medium, une VM large, etc. pour à peu près avoir une idée de est-ce que la performance s'écroule, est-ce qu'il y a quelque chose qui change quand on va demander des plus grosses VM ou des plus petites VM, est-ce qu'on va avoir les mêmes performances, est-ce qu'on va avoir un aussi bon cloud provider selon le type de VM qu'on choisit, ou alors ça va rester sur il nous faut une baseline et on prend cette baseline.
Ce qu'on fait, c'est que on essaie de scaler généralement le minimum qu'on fait, c'est de 2 à 8. Pourrait monter de 2 à 64, c'est pas un problème, mais quand je dis de 2 à 8, c'est 2 à 8 CPU. Ensuite, pareillement pour le block storage, on essaye de prendre tout le temps 50 gigas par CPU. Donc si j'ai une VM à 4 CPU, j'aurai 200 gigas de block storage, j'ai une VM à 8 CPU, j'aurai 400 gigas de block storage, etc. Et tout ça parce qu'on a très bien vu que dans le cloud, plus la VM est grosse, plus les performances sont meilleures. Je parle pas juste des performances du CPU, je parle aussi des performances réseau. Si on prend Oracle, par exemple, je sais qu'on a 1 gigabit par OCPU. Donc plus on a d'OCPU, plus on a de gigabits en bande passante. pour exprimer ça, bah, Cloud Mercato, on se doit de monter en échelle sur les VM qui sont proposées. Et ensuite, tu m'as parlé que les VM qu'on benchmark ne représenteront pas forcément le catalogue des cloud providers. Et ça, je suis complètement d'accord. Si on prend par exemple AWS ou Azure, ils ont des catalogues à 400 VM. Donc, benchmarker un type de VM ne sera pas très parlant. Donc, on essaye de benchmarker le maximum. Généralement, pour quasiment tous les gros providers, on a benchmarké la plupart des VM de 1 à 8 CPU. À part si ça coûte trop cher, comme des VM GPU ou des choses comme ça. Mais sinon, on essaie toujours de benchmarker de 1 à 8 et c'est disponible gratuitement sur notre site internet. Et il y a une troisième chose aussi qui, quand on veut parler de Apple, comparaison Apple to Apple, moi, ça me gêne pas de dire que je compare Apple to Pear ou des poires avec des clémentines, etc. Ça me gêne pas du tout. Parce que mon idée, c'est de récolter des data qui me permettront de dire, ah, c'est une Apple ou c'est pas une Apple, en fait. Quand je vais chez Amazon et qu'Amazon me dit Compute Optimize, ok, d'accord, ils ont du Compute Optimize. Je vais chez IBM, ils me disent Compute Optimize, bah, tiens, c'est pas la même définition, en fait. Et je vais chez Azure et je regarde le Compute Optimize, c'est encore une autre définition. Donc, en fait, c'est pas les mots qui vont me dire si je suis sur des produits similaires. C'est dans un premier temps, ça peut être les specs. Je regarde qu'est-ce que sont ces VM sur le papier. Mais pareil, la VM pourrait être en CPU partagée ou en CPU non partagée. Il pourrait y avoir des infos qui ne sont pas données et qui rendent ces VM in fine, et si j'ai envie d'être stricto sensus, incomparables. Donc moi, plutôt que me dire oui, mais c'est pas la même chose, c'est pas comparable, c'est du cloud, tout est flexible, tout est virtualisé. Donc, je prends deux produits qui ont l'air similaires et on va voir s'ils sont similaires. C'est voilà quelle est notre démarche. Donc, on peut faire comparaison banane ou noix de coco. Il n'y a aucun problème. À la fin, moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats que ça va donner. Et ça se trouve, la noix de coco sera aussi digeste que la banane, etc. quoi.
Pour bien préciser, quand tu publies une étude, est-ce que justement tu as un classement dans ton étude? Et ce classement, qu'est-ce qu'il reflète exactement?
En fait, dans nos études publiques surtout, parce qu'on a des études privées qui sont demandées par les cloud providers et on a des études publiques qu'on fait pour la curiosité des consommateurs. Et dans toutes ces études-là, on essaye de pas faire des classements. Ce qu'on essaye de faire, c'est de donner de la data aux utilisateurs. Et comme je disais tout à l'heure, lui, il a son affinité à se dire peut-être que moi, je suis plus CPU, peut-être que moi, je suis plus GPU, peut-être que moi, je suis plus network. Et il va arriver sur le chapitre network et il va se dire cet aspect des performances, c'est avec ça que je vais faire mon choix. Et peut-être qu'il va regarder le ratio prix-performance et se dire c'est ça qui va guider mon choix. Mais se dire oui c'est peu, enfin, c'est comme ça qu'on essaie de délivrer des datas aux utilisateurs pour qu'ils se forgent leur avis. Mais on n'essaie pas de dire aux utilisateurs regardez celui-là c'est le meilleur, on a testé c'est le meilleur. Et au début de Cloud Mercato, j'ai fait deux études sur les computes en North America et en Europe que j'avais appelées top 10 et je le regrette amèrement aujourd'hui tout simplement parce que j'ai pas envie de faire un classement, c'est pas mon idée. Et en fait j'avais commencé par top 10 et vu que c'était un classement à chaque fois je devais trouver les critères qui font que lui il est le meilleur, lui il est moins bon, etc. Il y a tellement de critères qu'en fait l'affinité de l'utilisateur c'est le critère le plus important quelque part. Et moi je donne les datas pour que l'utilisateur puisse appliquer son affinité dessus, quoi.
Pourtant, il m'avait semblé que dans ton étude sur les hyperscalers, justement, il ressortait que Oracle Cloud était, je sais plus, le moins cher ou.
C'est ça.
Donc après, c'est juste un aspect que tu pousses en avant, mais il faudrait regarder l'étude en détail pour vraiment comparer. C'est bien ça, c'est juste en fait un aspect marketing.
Je dirais que c'est même pas du marketing en tant que tel, parce que Oracle ne m'a pas payé. Cette étude, elle est absolument pas sponsorisée. Et en fait, ce qui ressort de cette étude, c'est clairement Oracle. Clairement, dans toutes les catégories, on se dit Oracle, ils sont moins chers, ils sont aussi bons, ils sont moins chers. Partout, ils sont moins chers en l'occurrence. Et c'est même pas ma volonté de vouloir mettre en avant Oracle. C'est juste une étude neutre et indépendante qui montre qu'Oracle est les meilleurs. Après, si demain Oracle a envie de travailler avec Cloud Mercato, moi, je suis ultra partant. Mais oui, c'est une étude indépendante, clairement. Et voilà.
Il y a une chose aussi que tu mentionnes souvent, c'est l'affinité que les consommateurs ont avec un cloud provider. Et cette affinité, justement, comment tu peux l'évaluer à partir d'un benchmark, puisque si moi, je vais préférer, par exemple, l'interface d'un Google, la facilité que j'ai à l'utiliser à un AWS, par exemple, c'est très difficile parce que c'est le look and feel, c'est moi les habitudes que j'ai. Il me semble que les utilisateurs de Microsoft se retrouvent très facilement dans Azure, alors que quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude peut-être est un peu plus dérouté. Donc, ce look and feel, est-ce que justement il y a une manière de l'évaluer ?
De l'évaluer, non. On m'a posé la question, est-ce que je voudrais faire comment dirais-je, ce genre de site internet qui permet aux utilisateurs de donner leur feedback, de donner leur ressentiment avec 0,5 étoiles sur les cloud providers. J'ai pas du tout envie de faire ça, parce que je trouve ça beaucoup trop objectif, et que pour tel provider, j'aurai 3 gars, et pour tel provider, j'en aurai 1500. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'on intègre ça directement dans notre stratégie logicielle, et permettre à l'utilisateur, un utilisateur enregistré ou pas, de dire, moi, mon affinité, c'est telle façon de voir les choses, etc. Et après, le truc, c'est qu'aussi, c'est difficile, on arrive facilement à dire, par exemple, que les utilisateurs d'Active Directory, les utilisateurs de Microsoft, ils vont aller vers Azure. On arrive à le dire simplement, c'est facile à comprendre, etc. Mais il y a des choses beaucoup plus compliquées, où il y a des choses, si on n'a pas tous les détails, on ne les comprend pas. Un exemple simple, les clients d'Oracle vont vers Oracle Cloud, les clients d'IBM Power vont vers IBM Power Cloud, etc. C'est la même logique que Azure. Hein. Mais si on ne sait pas que Oracle faisait du DC privé, si on ne sait pas que IBM faisait du DC privé, on ne capte pas, on n'a pas ce raccourci. Donc, je préfère ne pas me mettre à la place de l'utilisateur, et juste laisser, comme je disais tout à l'heure, essayer de se focus sur l'affinité à un aspect qui n'est pas de la performance, mais ça pourrait être la sécurité, ça pourrait être la souveraineté, ça pourrait être plein de détails. Et juste donner à l'utilisateur des curseurs, des interrupteurs qui permettront de dire, moi je suis sensible à ça, à 0 ou à 1, je suis sur une échelle de 0 à 1, je suis sensible à ça, ou je suis sensible à 0,75 à telle chose, à la souveraineté, ou au RGPD, ou je ne sais quoi. Et en fonction de ça, nous, on pourra créer automatiquement des scores pour les utilisateurs. Mais aujourd'hui, on veut vraiment pas se mettre dans le cerveau des utilisateurs, parce qu'on a commencé à rentrer dedans, mais ça comporte beaucoup trop de biais. Beaucoup de cloud providers, par exemple, sont des passes, et si on regarde le pass de loin, on va dire ça coûte cher. Comme à l'époque, et comme on dit toujours, le cloud, ça coûte plus cher que le on-premise. Mais ce plus cher, en fait, il vient d'une certaine envie de ne pas vouloir manager certaines choses. Donc, c'est pas plus cher, en réalité. C'est juste l'affinité, encore une fois, de l'utilisateur à ce genre de choses. Pour ça que le psychologique et tout, c'est compliqué.
Je connais bien. Apple, c'est plus cher qu'autre chose. Et puis quand on compare à matériel équivalent, finalement, on retombe quand même très proche de ce qu'on a.
Ouais.
Tu as dit donc que Cloud Mercato est neutre et indépendant. Cela dit, tes études sont commandées par les cloud providers notamment. Comment tu peux faire justement pour assurer que c'est bien indépendant? Parce que ça paraît pas évident. Je serais cloud provider et je viendrais vers toi pour demander une étude. J'espérerais bien que mon étude porte sur... Enfin, en tout cas... me mettre en avant.
Oui.
Est-ce que les cloud providers viennent vers toi avec quelque chose de très précis à comparer ou commandent une étude pour les comparer à des concurrents simplement et voir où ils se placent?
Généralement, on vient me voir pour un produit précis et on n'a pas forcément les réponses. On ne vient pas me voir tout de suite pour me dire « Anthony, mets-moi en valeur tel produit » parce que je ne sais pas de toute manière si je pourrais le mettre en valeur vis-à-vis des benchmarks que je vais lancer dessus. Et la procédure habituelle, j'ai envie de dire, ce serait tout simplement... prenons un exemple simple. OVH, il y a à peu près un an de ça, ils ont sorti un nouveau type de VM avec des SSD qui proposent des superbes perfs en IOPS. Et donc, ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Est-ce que tu pourrais aller regarder chez la concurrence qu'est-ce qu'il y a ?» Faire un benchmark pour comparer notre nouveau produit et les concurrents, prix, performance, etc. etc. J'ai fait ce benchmark, il a été concluant. OVH avait les plus gros IOPS d'Europe, OVH avait les plus bas prix au niveau IOPS d'Europe. Et c'est à partir de ce benchmark-là qu'on va sur un processus marketing. Mais si le benchmark m'avait dit OVH est avant-dernier ou quelque chose comme ça, en fait, la prestation, elle se serait arrêtée là. J'aurais répondu à leurs questions et on n'aurait pas pu faire de marketing tout simplement parce que ça ne valait pas le coup. Et que moi, j'aurais dû me contorsionner dans tous les sens pour arriver à trouver un avantage à quelqu'un qui est avant-dernier, quoi. Donc, notre indépendance, d'abord, elle vient des chiffres. Parce que, les chiffres, on dit souvent qu'on peut les tourner dans tous les sens. Mais c'est justement ce que j'essaie de ne pas faire depuis tout à l'heure et de dire que on laisse la finitialisateur et nous, on donne des chiffres neutres. Et ensuite, chez Cloud Mercato, il y a deux types d'études. Il y a les études privées, donc qui sont plus dans un processus marketing, et il y a les études privées, il y a les études publiques, excusez-moi, où là, c'est nous, on se pose des questions sur le marché, où nos utilisateurs se posent des questions, et on veut leur répondre à ces questions-là. Et les études publiques, elles sont complètement indépendantes. Il y a personne qui les sponsorise. Et les études privées, elles sont focus parce qu'on se focus sur un produit. Mais comme je viens d'expliquer, en fait, s'il n'y avait pas un intérêt à ce qu'on vous montre ce produit-là, on ne vous le montrerait pas. Parce que dans notre philosophie, on veut faire la promotion du cloud et absolument pas le hall of shame. Donc, on a des stats. Par exemple, on a des providers où le CPU est partagé à 90% du temps. Mais on va pas forcément vous en parler. On préfère vous dire, regardez, celui-là, il est à 0%. Tout simplement parce qu'on veut faire la promotion du cloud. Donc, on peut voir là un biais. Mais je pense que c'est pour le meilleur de tous. Dans ce cas-là, si vous m'entendez pas parler d'un cloud, vous pouvez peut-être essayer de deviner qu'il n'est pas bon.
Dans ces commandes que te font les cloud providers, est-ce que eux-mêmes n'introduisent pas des biais volontairement? Typiquement, je suis peut-être un petit cloud provider européen et je sais que niveau tarif, je suis meilleur que un hyperscaler parce que par défaut, j'ai moins de services, donc j'ai moins d'infrastructures à faire tourner. Est-ce que je peux te commander une étude en disant, compare-moi aux hyperscalers sur la performance de mes VM, c'est le seul produit que j'ai, pour être sûr, en fait, qu'au niveau prix, je ressorte devant eux?
On peut me commander ce qu'on veut comme benchmark, c'est pas du tout un problème. La question, c'est qu'est-ce qui va ressortir de ce benchmark? Généralement, mes clients, c'est les services marketing ou les services de product management. Et ils sont pas forcément techniques. Donc, quelque part, ils me font confiance quand je leur dis mégabits par seconde, ils comprennent pas. Et si je leur explique le truc, ok, une vague idée, une semaine après, ils l'ont oublié. Donc, ils me font confiance pour cette prospection des résultats et pour l'analyse aussi. Donc, introduire des biais, pas tellement. Ils peuvent me demander, teste ça plutôt que ça, mais même l'inventaire de ce qu'on va benchmarker, on le fait ensemble et forcément, il y a des biais, mais c'est humain, j'ai envie de dire. Ces biais-là sont humains et moi, je tente toujours d'enlever au maximum ces biais tout simplement en prenant le maximum de types possibles. Quand, je sais pas, un client va me dire « Oui, moi, je veux tester un cloud ABC », comme ça, je vais rajouter le D. Parce que ça pourra me donner une idée de « Oui, mais est-ce que ça sonne bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous êtes dans la niche que vous pensiez être ?» etc., etc., quoi.
Et donc, chez les cloud providers, par exemple, ça va être un service marketing qui va faire cette commande?
Ouais, généralement.
Donc, au final, tu as des résultats qui sont de la donnée brute, tech, des performances, et est-ce que c'est ton travail justement de les tourner, en tout cas de les mettre en forme, pour être appréhendé par un service marketing?
Tout à fait. Comme je disais, eux, la technique, quelque part, c'est bien, mais c'est pas leur travail. Donc, moi, je tourne les data de manière à ce qu'ils les comprennent, ne serait-ce que pour avoir un ratio prix-performance. Eux, ils vont pas se lancer dans ce genre de choses. Ils pourraient, mais ils marchent sur des œufs. Et ensuite, il y a quelque chose qui est bien pour les cloud providers, c'est le fait que justement, ils utilisent un tiers pour faire ce genre de choses. Si on prend le cas de la France, par exemple, je crois savoir qu'il y a plein de lois sur la concurrence qui régit la manière dont on doit parler d'un concurrent. Est-ce qu'on a le droit de dire quelque chose? Est-ce qu'on a le droit de faire, entre guillemets, de la diffamation? Peu importe. Et en fait, là, on a un tiers qui est pas nous. Donc, on ne prend pas le risque de dire telle personne est comme ça. Et ce tiers, en plus, il a une expertise il connaît de quoi il parle, et s'il commence à mentir, bah en fait, ce sera de sa faute. Et moi, Claude Mercato, je me permettrai jamais de mentir parce qu'en fait, c'est la base de mon business model. Si un jour quelqu'un vient et dit « Oui, mais attends, il s'est passé ici, tu dis pas la vérité », bah moi, c'est tout mon, toute ma crédibilité qui s'effondre à ce moment-là. Donc, je risque pas de mentir. Et ça, c'est un petit peu un gagnant-gagnant pour les cloud providers et pour nous parce que on leur apporte quelque chose que naturellement, ils ne pourront jamais faire, ne pas être eux. Et au travers de ça, on leur apporte notre expertise. Donc, forcément, il y a des biais, forcément, on introduit des choses, mais nous, on essaye d'être neutre et indépendant, et c'est vraiment là-dessus qu'on se base, quoi.
Tu m'as parlé donc des cloud providers qui sont une partie de tes consommateurs, les études publiques, là, qui sont publiques, forcément, et qui s'adressent un peu à tout utilisateur du cloud. Est-ce que tu as d'autres commandes qui viennent d'autres utilisateurs?
Oui. Alors, en fait, dans notre plateforme, on a différents tiers pour la consommation de notre plateforme. On a d'abord le freemium avec les utilisateurs anonymes ou n'importe qui a envie de s'inscrire sur la plateforme. Ensuite, on a les pros et ensuite, on a les premium. Mais en réalité, ils ont à peu près tous les mêmes datas. Qu'on soit un premium ou un freemium, on va avoir quasiment le même nombre de providers et le même nombre de datas. La différence entre tout ça, c'est la manière dont moi, je vais délivrer des services, moi ou mon équipe. Et un freemium, bah, il se sert par lui-même. Et ensuite, il y a le pro, où il a un petit peu plus de data. Et les pros, généralement, c'est soit nos partenaires, soit des journalistes. Donc, disons que je suis journaliste, et plutôt que de prendre les data sur les différents sites de Claude Mercato, j'ai envie de taper leur API directement, puisqu'on a une API GraphQL. Bah, avec un compte pro, je vais pouvoir taper directement l'API. Donc, si je suis journaliste ou si, disons par exemple, on a un partenaire qui s'appelle Brainboard, avec lequel on est en train de développer une petite solution. Et en fait, Brainboard permet de faire du drag and drop pour créer des architectures avec Terraform notamment. Donc voilà, je clique, je rajoute une VM, un load balancer, etc. Et l'idée en fait, c'est que Brainboard connecté à Cloud Mercato, bah Brainboard sera capable d'avoir des données de perf et des données de prix. Donc sera capable de dire à ses utilisateurs, ah mais là t'as utilisé ça, tu devrais plutôt utiliser ça. Ou tiens, downgrade ou upgrade cette architecture là parce que tu pourrais avoir des gains de perf ou des gains de prix. Et ça c'est un autre type de client qui utilise notre plateforme. Et typiquement freemium, pro et premium, c'est les mêmes data, mais c'est pas la même manière de consommer, c'est pas la même manière dont moi je les apporte aux consommateurs. Un premium, on peut se douter que je lui apporterai ses data sur un plateau d'argent avec de jolis graphes et des légendes de partout.
Alors tu l'évoques, t'avais beaucoup de données, beaucoup de données, même certaines dont tu saurais pas quoi faire presque, et tu exposes tout ça au travers d'une API. Alors, j'imagine aussi que, alors tu nous cites ce partenariat que tu es en train de monter, est-ce que tu as d'autres utilisateurs aussi qui ont des cas d'utilisation des données que tu génères au travers de l'API que tu connais ou c'est le seul pour l'instant?
Alors, on a Brainboard, on en a d'autres qui se posent des questions, il y a aussi des cloud providers qui se posent des questions, ce même genre de questions que se posent les autres cloud providers, mais qui n'ont pas forcément envie d'aller dans le premium, parce que dans le premium, il y a toute une suite de choses où, en fait, un utilisateur premium n'est plus un utilisateur, c'est un client. Et par client, j'entends que vraiment, on lui apporte des choses supplémentaires. Et dans le pro, on est toujours sur du self-service, j'ai envie de dire. Donc, il y a des journalistes, il y a des SaaS, il y a des acteurs du FinOps aussi, parce qu'en fait, on a toutes les datas pour faire du FinOps, mais on fait pas de FinOps, tout simplement. Et de savoir qu'il y a une entité qui s'amuse à collecter les datas de plus d'une quarantaine de cloud providers, en fait, c'est un gain de temps pour beaucoup d'entreprises, et notamment celle de FinOps. Pour donner un exemple, on a Love Cloud, qui avec lequel on travaille. Je sais pas trop qui dire d'autre. En fait, on en a un petit tas, mais voilà.
Et alors, il y a un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est que les cloud providers ne cessent pas d'évoluer, ajoutent de nouvelles fonctionnalités, mais aussi le matériel change, évolue, etc. Et donc, j'imagine qu'il y a une progression de l'évolution de tes datasets, mais aussi une progression de tes outils de benchmark.
Oui.
J'imagine.
Oui, oui, oui.
Comment, de ton côté, rester bien à la page avec tes outils, avec ta plateforme, face à justement ces cloud providers qui avancent à une vitesse justement assez grande?
Bah, déjà, le truc à se dire, c'est que les providers ont beau évoluer très vite. Si on prend le cas des VM, bien sûr, mais on peut donner ça sur les DB Manager ou sur plein d'autres. On est toujours sur du x86. On est toujours sur un coupe CPU RAM. On a toujours du block storage, toujours du SSD. Le block storage, il a voulu copier le hard disk qu'on avait avant. Les providers nous ont mis du VPC parce qu'on a envie on voulait avoir IP dans notre cloud. Donc, on est toujours sur les mêmes choses, les mêmes façons de faire. Et nos benchmarks, ils changent pas plus que ça. On peut s'amuser à rajouter des petites parties ici et là, etc., mettre à jour nos softwares. Petite parenthèse, d'ailleurs, j'essaie de à peu près tout compiler par moi-même, plutôt que de compter sur un APT ou un Yum qui a un an ou deux ans de retard sur certains paquets. Et donc, les providers, ils peuvent évoluer. Et si on doit parler en termes de prix, tout d'abord, les prix, ils évoluent pas tant que ça. Les prix, quand un provider sort un nouveau type de machine, il va appliquer un prix sur cette machine, ensuite il va appliquer un prix lorsqu'il va sortir cette même machine dans un nouveau data center, mais en réalité il va pas changer le prix en cours tous les mois à se dire « Ah bah aujourd'hui l'électricité me coûte plus cher, je vais mettre ma même plus cher ». Non, les providers ne font pas ça. Les seules différences, enfin ça arrive qu'ils changent les prix, mais les vraies différences de prix c'est quand ils ouvrent une nouvelle région, et globalement on peut le dire, le Brésil est plus cher chez tous les cloud providers, L'Inde est moins chère, l'Europe est dans le milieu des prix, etc. Dans le milieu des prix. Donc ça, c'est dit. Et pour ce qui est des performances, ça dépend vraiment du cloud provider. Si on prend un cloud provider comme Google, quand ils ont commencé leur cloud, ils avaient au début juste les N1 standards. Et en fait, pendant 5-6 ans, je crois, on est resté sur le N1 standard, mais à chaque fois, ils changeaient la plateforme CPU. Donc au début, on était sur du Sandy Bridge, après on est passé sur du Haswell, du Broadwell, et à la fin, on a été sur du Skylake. Toutes ces générations de CPU, donc vu que c'est un nouveau CPU, à chaque fois, c'est censé être plus puissant. Mais si on lançait des tests de performance, en fait, chez Google, à chaque génération de CPU, on voyait que la VM n'était pas plus puissante. Pourquoi ? Parce que même si on est sur une génération supérieure de CPU, en fait, à chaque fois, il baissait la fréquence du CPU. Je crois qu'il l'a baissé à chaque fois de 200 MHz. Donc, le processeur est plus puissant, mais il est moins rapide. Et ce qui fait qu'en fait, pendant 6 ans, on avait à peu près la même performance, même si on changeait de machine, on prenait une plus récente, on avait la même performance pendant 5-6 ans. Et après, je crois que c'est en 2018-2019 qu'ils ont commencé à sortir les C2, les N2, les N2D, et à vraiment diversifier le tout. Mais au début, on avait à peu près la même performance pendant plusieurs années. Donc tout ça pour dire qu'en fait, au niveau des prix, les choses ne changent pas forcément et que nous, on est sur le coup, on récupère les prix tous les mois. Et pour ce qui est des perfs, ça dépend le cloud provider. On a des providers comme Google qui n'ont pas changé pendant 5 ans. Il y en a qui vont vous dire une année, tiens, on va vous sortir un CPU high frequency avec 3,9 GHz. Et 6 mois plus tard, ce processeur n'est plus disponible, enfin cette VM n'est plus disponible. Tout est variable. Et nous, on essaye de regarder un petit peu tout ça. Et alléluia, on a notre plateforme qui nous permet d'automatiser l'analyse et la collecte de data un petit peu partout.
Puisque tout est variable, alors est-ce que tu fais des études aussi sur le long terme ? Et chaque année, par exemple, tu vas revenir sur une étude que tu as déjà faite pour la refaire et pouvoir comparer les résultats que tu peux avoir d'une année sur l'autre sur l'évolution des cloud providers ?
Tout à fait. Tout à fait, c'est l'idée. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des études l'année dernière, top 10 North America et Europe. Et en fait, cette année, faut que je les commence là, en juin, donc c'est maintenant qu'il faut que je les fasse. Et du coup, je vais prendre l'étude que je vais faire cette année, la comparer avec celle que j'ai fait l'année dernière, et ça va nous dire quelle est l'évolution d'un provider par rapport à l'autre, et du même provider d'une année à l'autre, etc. Et clairement, c'est vraiment le genre d'étude que j'aime faire, de me poser la question qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que sont mes pensées par rapport à l'année dernière, en fait. Mm-hmm. C'est vraiment ce qui est très intéressant comme manière de voir le marché.
Alors, il nous reste quelques petites minutes. J'aimerais bien, en dernière question, que tu nous présentes un peu plus Cloud Mercato, parce que À imaginer comme ça, c'est un boulot de dingue. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail Claude Mercato?
Yep. Alors, la phrase d'accroche, c'est qu'on est un super cabinet de recherche et consulting spécialisé dans l'analyse du marché du cloud. Il y a beaucoup de cloud providers et les consommateurs, de mon avis, sont un petit peu perdus. Ils vont vers le provider qui leur tend le plus de fric. Quand on est une startup, on voit un AWS, on voit un Azure qui nous propose 120 000 euros par an parce qu'on est en série A, on y va tout de suite. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de cloud qui proposent des alternatives et qu'on ne devrait même pas nommer alternatives, c'est simplement des options. En France, tout de suite, nous, les francophones, on pense tout de suite à 3DS, Kelway, OVH, etc. Mais un madrilin d'Espagne, il peut penser à Walala. Un finlandais, il peut penser à UpCloud. Un portugais, il peut penser à Nos. Et tous ces providers-là, ils méritent une certaine promotion, ils méritent que les gens connaissent. Et plutôt que de juste dire ils existent, nous on propose des data de perf qui permettent de justifier le pourquoi est-ce que vous devriez les choisir. Et en fait, ça c'est la partie recherche de Claude Mercato. Proactivement, on lance des recherches, des benchmarks sur le marché. Mais il y a aussi la partie conseil où cette fois-ci, on aide les entreprises à rentrer dans ces données. Donc tout ce que je parlais tout à l'heure, la recherche, c'est gratuit. C'est vraiment quelque chose qu'on fait pour la curiosité des curieux du cloud. Alors que quand un cloud ou quand un client vient nous voir pour une recherche, là, en plus de nos data, on fournit notre expertise qui est celle de connaître les contrats, de connaître vraiment au détail qu'est-ce qui fait tel ou tel produit et surtout d'être un insider parce qu'on en... On est en relation avec la plupart des cloud providers. On essaie d'entretenir des échanges avec eux pour savoir quand est-ce qu'ils vont sortir un produit, comment est-ce qu'on doit qualifier le produit, comment est-ce que eux pensent ce produit et comment est-ce que nous, on devrait parler de ce produit quand quand quelqu'un vient nous poser la question, etc., etc. Donc, on a des insights, on a des datas et on a une expertise qui nous permet de qualifier les produits cloud.
Anthony, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était super.
De rien. Merci Stéphane.
Retrouvez Anthony sur Twitter @monte_anthony et Claude Mercato sur cloud-mercato.com.